Salut les marques, salut les smarts, salut peuple le catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Mais pas que. Aujourd'hui, sous vos oreilles ébahies, vous êtes sur Catch-up You Talk Too Much, notre troisième édition. L'édition d'un numéro où on ne la ferme jamais. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis le tonton Chris. And now, ladies and gentlemen, let me introduce you my guest. Aujourd'hui, nous recevons l'ami, le youtubeur, le magnifique Tao di Lataloche. Lataloche, salut, comment vas-tu en ces temps troublés?
Bah salut, ça va tonton, ça va très bien. Et vous, auditeur de Catch-up?
Ah oui, le peuple de Catch-up.
Toujours, ne l'oublions pas.
Est pendu à tes lèvres ce soir.
Oula, bah dis donc.
Ah ouais, c'est pas rien.
Bah ça commet un petit peu la pression quand même. Hein.
Ah ouais, tant que ça.
Oh. Ah moi j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude de parler tout seul, donc dès que je suis avec quelqu'un et que je parle de catch, je suis un petit peu en pression quoi.
Ah ouais, à ce point-là. Ah bah écoute, je vais te mettre une pression d'enfer. Ah, you deserve it. Alors, écoute, la Taloche, moi je suis ravi de te recevoir. Je t'ai connu, je vais expliquer un petit peu aux auditeurs, je t'ai connu par le biais de YouTube, tout simplement, déjà, dans un premier temps. Et puis, parce que tu nous suis sur Twitter, tu es sur Instagram. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, ma première question, ça va être, en tant que suiveur de catch, ta vie, ton œuvre, la marque de ton slip?
Actuellement, je porte un caleçon délavé. Pour rien te cacher, voilà, j'ai fait une machine avec des nouveaux vêtements rouges, donc du coup j'ai des vêtements roses désormais. Mais sinon, pour parler de moi, je suis fan de catch depuis un petit peu près 15 ans pratiquement.
Ouais.
Voilà, j'habite dans la région lyonnaise, donc forcément j'ai un petit peu moins la chance de voir du catch en France que la plupart de mes confrères podcast ou vidéo YouTube. Mais voilà, sinon je m'appelle Tao, c'est même pas un pseudo, c'est vraiment mon prénom.
D'accord, ok.
Et voilà.
Alors, explique-nous un peu ta chaîne YouTube, explique-nous un peu sur quel réseau tu es présent, etc.
Alors, pour présenter un petit peu ma chaîne YouTube rapidement, je l'ai créée en septembre 2019 maintenant. Ça fait quelques années que j'avais envie déjà de créer du contenu, mais étant donné que je suis un petit peu réservé, c'est pas forcément l'envie qui me manquait, mais plutôt le courage, on va dire. Mais sinon, j'ai créé ma chaîne YouTube avec ma copine Megan. On a commencé à faire des vidéos, on parlait surtout de NXT et d'AEW. À l'époque, on a commencé, il n'y avait pas encore AEW, du coup, c'était surtout NXT.
Ouais, donc un couple, là.
C'est ça.
Ça, c'est super, ça.
Et tout simplement, le truc, c'était que moi, je suis fan de catch depuis très longtemps et elle n'est pas du tout fan de catch. Hein. Elle a commencé un petit peu à s'intéresser quand on s'est mis ensemble. Mais forcément, comme je l'ai déjà dit, le catch, c'est un petit peu difficile à rentrer dedans quand on n'est pas habitué. Donc, elle s'est surtout intéressée parce qu'elle est avec moi. Donc, du coup, on voulait vraiment avoir une approche différente de la plupart des podcasts ou des vidéos qu'on regardait, ou en tout cas que moi, je regardais. Sur YouTube de catch, c'était l'avis de quelqu'un qui connaît beaucoup le milieu et quelqu'un qui connaît pas du tout le milieu. Donc, on voulait vraiment avoir ce point de vue-là qui pouvait être intéressant, puis surtout un échange entre deux personnes qui sont pas du tout du même point de vue.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc tu es présent sur YouTube. Depuis combien de temps?
Je suis présent sur YouTube, du coup, depuis septembre. J'avais commencé avec la vidéo de NXT du 18 septembre, il me semble. C'était Roderick Strong contre Velveteen Dream. D'ailleurs, c'était le dernier match de Velveteen Dream avant qu'il fasse son retour il y a quelques semaines. Mais sinon, je suis présent sur Twitter aussi depuis très longtemps. Il me semble que ce compte que j'ai actuellement date de 2016, mais je suis présent depuis très très longtemps. Il me semble que j'ai fait mes premiers comptes en 2012, peut-être 2013, peut-être même 2011.
Donc on te retrouve à La Taloche sur Twitter.
C'est ça, @lataloche pour le Twitter qui parle de la chaîne de catch où je partage les vidéos et un petit peu les retours par rapport aux vidéos. Et sinon, mon Twitter un petit peu plus personnel pour parler de catch, c'est TaophilePW. Voilà.
Ok.
Donc là, je partage un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Hein. Donc des fois, je peux passer pour un gros rageux ou quelqu'un de très énervé, mais c'est juste parce que je partage mes pensées et un petit peu
ouais,
sans filtre.
Ouais, bah, c'est normal. T'es plutôt heel ou plutôt face?
Ça dépend. J'essaye toujours de mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit.
T'es un tweener.
Voilà, je suis un tweener plutôt orienté heel à certains moments, on va dire.
D'accord, voilà. Ok. Donc t'es présent sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter.
Sur Instagram, sur Twitter.
Autre plateforme?
Je suis pas sur Facebook parce que c'est un petit peu daté maintenant avec les réseaux qu'on a aujourd'hui et pour l'instant c'est tout. Voilà.
D'accord, ok. Alors vous m'excusez, hein, mais on me téléphone en même temps, c'est une catastrophe, c'était sûr que cet enregistrement allait être compliqué. alors, excusez-moi, peuple de ketchup, c'est un peu des coups.
Le dinosaure connecté. Hein.
Voilà. Ouais, le dinosaure connecté quand même. Quoi. Tu vois, on peut être un Lochasaurus et quand même avoir un téléphone portable. Quoi. Même à l'EHPAD, ils nous fournissent un téléphone portable, les amis. Voilà, c'est comme ça. Alors, écoute, on a parlé donc de toutes les plateformes où tu étais. Maintenant,
c'est ça.
Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu suis au niveau de. On va parler toujours sur le domaine internet. Qu'est-ce que tu suis au niveau des podcasts, des youtubeurs, des chaînes YouTube, quoi. Qu'est-ce que tu suis?
Alors, est-ce qu'on parle que de catch là ou pas du tout?
On parle que de catch. Ah non, de toute façon, là, tout à l'heure, j'étais à You Talk Too Much.
Ok, d'accord.
You Talk Too Much About Catch, About Wrestling.
Bah oui, forcément. En plus, je suis avec la taloche, donc je vais pas parler de ce qui est pas la taloche. Voilà.
Bah ouais, et puis t'es avec tonton Chris de catch-up, là.
Bah oui. Donc du coup en catch ce que je suis c'est la base des bases hein, c'est 3CFM donc voilà Sturi, Norbert, Rabi, Ludivine aussi et Flo de Moustache Mountain, toute l'équipe de 3CFM. Je suis aussi les rebuts du catch-up bien entendu, Fatal 4-Way également, et je suis un petit peu moins assidu sur d'autres contenus comme So Catch by Al. Je suis aussi. Qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis aussi Christophe Ajus maintenant qui a sa chaîne YouTube qui est très intéressante avec la cloche qu'il fait avec Ali de Catch Club, c'est très intéressant.
L'univers d'Ajus.
C'est ça, l'univers d'Ajus. Et sinon, après, je suis abonné aux chaînes YouTube de compte de catch, hein, WWE, Impact, AEW, tout ça, quoi.
Ok. Et maintenant? On a fait le tour des chaînes, donc on va aller vraiment jusqu'au bout de la synthèse.
Ouais.
Qu'est-ce que tu regardes comme... On décrypte pas, juste tu nous dis voilà, les fédés que tu suis.
Alors, les promotions que je suis, j'en suis pas mal. J'avoue, je suis un petit peu moins dans ma période où je suis vraiment beaucoup de catch, mais j'en suis quand même pas mal maintenant. Ouais, je suis WWE, même si, disons que c'est plus en surface, hein, je m'intéresse pas non plus à l'intérieur du show. Sinon, je suis AEW. Impact aussi depuis très longtemps, j'ai suivi la MLW mais avant qui passe sur Bein Sport aux États-Unis, des choses comme ça qui recrutent un petit peu des grosses stars, j'étais un petit peu dedans mais sans plus. Sinon j'essaye de m'intéresser ces derniers temps au catch en France. Je dis pas catch français parce que pour moi c'est un petit peu biaisé comme appellation, je dis catch en France. Donc du coup voilà, grâce aussi à Cody des Rebuts du Catch qui m'a beaucoup intéressé à ce milieu là que je connaissais pas du tout vu que j'habite dans la région lyonnaise et on n'a pas du tout de catch. Et sinon comme promotion je suis aussi la Ring of Honor toujours, et puis la New Japan aussi hein, au Japon je suis vraiment que la New Japan, même si je connais un petit peu la AJPW, la BGW, la TJPW, enfin tous les W. Voilà.
Ouais. Le Mexique,
je suis un moins grand fan. Là, je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis un moins grand fan de Lucha Libre que toi aussi.
Mais, putain!
Ah oui, bah oui.
Il y a feud, voilà la première feud entre la Taloche et.
Ah oui, voilà, on va créer une feud interposée sur Twitter. Mais j'ai essayé de m'intéresser.
C'est vivant surtout... Mexico!
Bah, surtout par des catcheurs comme Mystico, justement, à l'époque où ils sont allés à la WWE, je m'intéresse un petit peu à la CML, à la AAA, mais disons que le lucha libre, c'est un style qui m'intéresse un petit peu moins que ça, mais sinon, en lucha, je sais pas si tu considères ça comme de la lucha libre, mais c'est que la lucha underground, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié.
Ah, la lucha libre, c'est pas exactement, pour moi, c'est pas exactement de la lucha libre. Il y a beaucoup, beaucoup de références à la lucha libre. Que ça soit dans la mystique, que ça soit dans les masques, que ça soit dans certains in-ring de certains catcheurs. Mais je suis d'accord, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin et moi aussi à devenir twinner. Et je reconnais bien volontiers que la lucha underground. D'ailleurs, j'avais fait une review à propos de ça. Et à fouiller dans les archives, peuple de catcheurs.
Ah oui, allez.
Et effectivement, ça pourrait se rapprocher de, je sais pas moi, la PWG ou.
Ouais, ouais.
Ou je sais pas, quelques fédés de territoire, tu vois, américaines. Tout ça avec, voilà, avec un cocktail de lucha libre et voilà, et puis quand même de beaucoup de catcheurs mexicains, merde!
Bah oui, bah oui. Bah c'est là d'ailleurs que j'ai connu beaucoup de catcheurs mexicains. El Hijo de Fantasma, El Hijo de Fantasma qui a signé maintenant NXT. Bah c'est là où je l'ai connu et je suis tout de suite tombé en admiration devant ce catcheur et j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Voilà.
Donc dans les mecs de la Lucha Underground, ça y est, on me parle de la Lucha Underground, moi ça y est.
Ah oui, bah.
Je jouis là. Là, on n'est plus en feu, on est en tag team. Là.
Ah oui, bah, ça va.
Donc, on va y revenir après à la Lucha Underground, mais juste pour dire, pour parler du côté un peu indie, un peu série, un peu tout ça. Tu vois, par exemple, je prendrais en exemple un catcheur comme Killshot. Prendrais en exemple, je sais pas, enfin, tu vois, il y a eu plusieurs mecs comme ça qui sont passés dans le roster pendant les 4 saisons, qui clairement n'étaient pas des luchadors. Clairement.
Oui, bah oui.
Et tu vois, un big Zeke, des
ah putain, oh là là, un big Zeke.
Tout ça, c'est pas des luchadors. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour de toutes les fées que tu regardes.
Ouais.
Donc donc du coup, si t'écoutes Catch Up, donc ça veut dire quand même que tu suis beaucoup la WWE.
Bah beaucoup par habitude, on va dire, hein, comme la plupart de mes confrères, comme habitude. Mais ce que j'aime surtout à la WWE, c'est les présentations. Voilà, c'est très très bien foutu. Les promos sont, en tout cas, les promos quand on parle de mise en scène pour les rivalités, tout ça, c'est vraiment très très bien travaillé. C'est vrai que c'est difficile de passer après sur un. Voilà, la production est vraiment très bien foutue, quoi. Donc c'est difficile de passer sur un truc indépendant après quand on passe par la WWE.
Ouais, je comprends bien. Ouais. Et tu regardes du coup les Raw, les SmackDown, les pay-per-view?
Les Raw et SmackDown de moins en moins. Je regarde surtout la highlight. Sinon, je suis un grand fan du produit NXT et les pay-per-view. J'essaie toujours de regarder le maximum de ce que je peux voir. Après, il y a forcément des trucs qui m'intéressent moins, donc je zappe un petit peu.
Tu suis sur le network ?
Non, je suis de manière illégale, bien sûr.
De manière illégale, bien sûr, totalement. Et tu regardes les shows sur différents sites et. Et donc tu dis que tu suis NXT, tu suis NXT UK aussi.
Je suis malheureusement NXT UK par faute de temps, j'avoue que je m'y intéresse beaucoup moins. Et malheureusement il y a ce truc qui arrive à ne pas me faire accrocher à NXT UK. C'est peut-être le public qui est moins investi. Je sais pas, il y a quelque chose en fait à NXT UK qui arrive pas à m'accrocher. Mais il y a quand même des bons produits hein, à NXT UK, donc c'est dommage.
D'accord. Que, ouais. Voilà. Alors, écoute, on va faire un point Covid-19.
Oh là.
Le point Covid-19. Alors, on fait ça en début d'émission, comme ça on l'évacue.
Ouais, voilà, on évacue le Covid.
On en parle plus. On va parler de deux sujets par rapport au Covid-19. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des shows à huis clos et qu'est-ce que tu penses du WrestleMania sur 2 jours? En sachant que, attention, c'est un spoiler.
Oula.
Tout ça, ça va être enregistré.
Ah oui, du coup. Du coup, on parle que WWE là ou...
Ouais, pour l'instant, on parle que WWE. Ouais.
Pour les shows à huis clos, malheureusement, c'est dans ces moments-là où on voit que la plupart des catcheurs WWE sont pas faits pour catcher devant personne, ou devant très peu de personnes en tout cas, parce qu'ils ont des habitudes en fait de télé, donc forcément c'est provoquer un petit peu la foule, gagner du temps pour les pubs, des choses comme ça. Donc forcément les shows j'avoue que je les regarde plus. Voilà, je les regarde plus depuis qu'ils sont à huis clos. Je regarde que quelques vidéos qui mènent sur YouTube de temps en temps, comme la promo d'Edge ou les choses comme ça. Donc j'y pense pas grand chose. Je trouve que c'est quand même cool qu'ils continuent à faire des shows, mais après ça c'est un autre débat, je sais que ça fait un petit peu polémique en ce moment. Mais ouais. Je trouve ça cool quand même qu'ils réussissent à faire des shows. On voit que c'est dans un format différent, avec beaucoup moins de personnes pour justement éviter le fait qu'il y a plusieurs personnes rassemblées en même temps. Après, je rappelle aussi aux gens qui nous écoutent que la situation aux États-Unis, c'est pas la même qu'en France. Donc pour l'instant, eux, ils sont encore un petit peu plus libres de se déplacer que nous. Donc voilà, faut pas comparer la situation de eux dans laquelle ils font les shows pour l'instant avec la nôtre qui est différente. Voilà.
Okay. Et concernant
je sais pas si oui.
Concernant WrestleMania,
oui. Concernant WrestleMania, moi je suis très content que ça soit sur 2 jours. J'avoue que du coup, j'ai entendu, je sais pas si c'est officiel ou pas, que le WrestleMania va être enregistré la semaine prochaine, à l'heure où on est cette semaine. Je sais plus du tout quel jour on est.
C'est ça, c'est ça. On est aujourd'hui, voilà. On est le lundi 23 mars.
Voilà, voilà. Enfin, du coup, je sais pas quand ils vont enregistrer ça. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très très cool avec le fait que ça soit au Performance Center, peut-être apporter un côté cinématographique avec des entrées très travaillées, avec vraiment quelque chose de filmique en fait dans leur entrée. Mais le fait que ça arrive très tôt dans leur enregistrement, j'ai peur que ça soit pas le cas, que ça soit juste on le fait et c'est réglé et on passe à autre chose. Donc pour l'instant, voilà, je suis très content qu'ils le mettent sur deux jours. Et malheureusement, je suis très déçu, surtout pour Rhea Ripley qui passe à côté de son WrestleMania moment, et aussi de Drew McIntyre qui passe à côté de son WrestleMania moment.
Ah, oh, Drew McIntyre, quelle tristesse. Le bel homme.
Ouais, le pauvre, hein, pour de vrai, c'est celui qui va avoir le plus de mal dans cette situation, quoi.
Ah, le bel homme, il doit être triste à l'heure actuelle, là, ça doit être pour lui, là, dans sa chambre d'hôtel, le soir, confiné, là, ça doit être terrible pour Drew McIntyre.
Ah oui, bah là...
Quand il a dû recevoir le script du WrestleMania enregistré, je pense que Drew McIntyre, il s'est enfermé dans sa piôle. Il s'est sorti un bon gros scotch écossais.
Ah, bah là, il a écouté son ancienne musique d'entrée, hein. Broken Dreams, là.
Ah ouais, Broken Dreams. Ouais, là, on est totalement dans le Broken Dreams. Ouais, là, ça n'a jamais été aussi valable, quoi. Bon, moi, les amis, le peuple de Ketchup et la Taloche, vous avez juste à aller écouter la dernière review de SmackDown et Draw et vous l'aurez, quoi. Mais moi, je fais partie de la catégorie des gens qui sont totalement contre. Voilà.
Oui, bah, voilà. Ça, je comprends tout à fait. Hein.
Je milite pour reporter. Voilà. Restez chez vous, restez fort, mais reporter. Voilà, ça serait un beau geste. Mais c'est mon avis à moi.
Bah, ce serait bien aussi. Hein. Moi, je ne suis pas contre du tout un report, au contraire. Hein. Franchement, si ça peut avoir une vraie foule avec un vrai public, ce sera d'autant plus cool.
Ouais, je suis là carrément d'accord avec ça. Là, tu prêches un converti. Donc voilà. Allez écouter la vous allez voir, il y a plein de trucs en ligne en ce moment là. Je vous en parlerai un peu à la fin. Bon, maintenant allez, on évacue la WWE parce que là, tu vois, c'est ça qui est cool à You Talk Too Much, c'est qu'on parle d'autre chose un peu.
Ah oui, bah on en parle beaucoup de WWE.
Ah, parce que nous, c'est notre fonds de commerce, hein, il faut dire ce qui est, hein, la team catch-up, nous notre fonds de commerce, c'est la WWE. On traite un peu à la IW. Mais sorti de ça, voilà quoi. Nous, c'est notre fonds de commerce, c'est notre business et best for business. Donc, bah oui. on est un podcast qui compte dans le YouTube game. Et puis surtout, on est sur toutes les plateformes de podcast qui existent. Et c'est avec ça, c'est avec ces auditeurs-là qu'on a le plus de retours, le plus de vues, le plus d'écoute, tout ce que tu veux quoi. YouTube, c'est que quelque chose d'optionnel à catch-up en réalité.
Ouais.
Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même vous abonner et actionner la cloche.
Ah oui, abonnez-vous à Ketchup, enfin, qu'est-ce que vous attendez?
Bah ouais, voilà, bande de salopards. Et allez vous abonner à la Taloche aussi, tout de suite, maintenant. Bah oui. Allez, on arrête la déconne. Alors, du coup, on va plus parler de la WWE, on va lâcher. Et They still got it, de toute façon. Donc, tant qu'ils auront le morceau pour continuer à faire des shows, bah, ils le feront, hein, parce que Vince,
bah oui.
Jusqu'au bout, jusqu'à
la mort. C'est une entreprise, hein. C'est une entreprise.
Ah ouais, c'est le plus gros business mondial de catch, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, on va parler de la IW, si tu veux bien.
Ah.
Alors, toi, la IW, ça existe depuis le début de l'année dernière et les shows weekly ont commencé en octobre.
C'est ça.
Alors, quel est l'avis de la Taloche dans la gueule sur la IW?
Alors, mon avis, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne parce que je fais beaucoup de vidéos, parce que je fais surtout NXT et AW. Donc, n'hésitez pas à les voir d'ailleurs. Si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas, je fais un petit peu de pub.
Mais il faut, t'es là pour ça, t'es là pour ça.
Bah oui. Mais AEW, ces dernières semaines, c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Et malheureusement, depuis le début, j'ai eu beaucoup de mal. Surtout le premier mois, tout octobre, en fait, j'ai vraiment été déçu. Voilà, après, c'est des vidéos que d'ailleurs j'ai fait avec ma copine, donc ça peut être intéressant pour les gens qui veulent vraiment avoir un avis avec un débat à l'intérieur. Faut regarder ces vidéos-là. Mais c'est vrai que les premières semaines, j'ai eu du mal, surtout avec le fait que 3 ou 4 semaines de suite, on a terminé le show avec une bagarre générale, avec deux clans, et ça, j'avoue que j'ai vraiment du mal, une fois ou deux fois, ça me va, mais là, ça a été vraiment fait tout le temps, du coup, les premières semaines, j'avais vraiment du mal, j'adore vraiment les catcheurs qui sont à l'intérieur, il y a mon catcheur préféré qui est Kenny Omega, qui est à la AEW, donc forcément, ça fait toujours bien. Après j'ai un problème, mais ça c'est un problème plus personnel sur Cody et les Young Bucks. Mais voilà, je décrédibilise pas du tout leur talent de catcheur, parce que c'est des très bons catcheurs, surtout les Young Bucks, c'est vraiment c'est l'une des meilleures équipes de la planète, hein. Ça, ils l'ont pas volé. Mais voilà, les premières semaines, j'ai eu du mal. Après, j'ai commencé à comprendre un petit peu ce qu'ils voulaient faire, même si pour l'instant, je trouve qu'ils essayent un petit peu de chercher une sorte d'identité ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, ça va à droite, à gauche pour l'instant. Il y a des idées qui sont là, mais qui sont soit pas assumées, soit trop présomptueuses peut-être. Donc à voir, je pense que ça va se bonifier avec l'âge, hein, c'est comme le vin. Mais voilà, pour l'instant, c'est un produit qui me plaît, et surtout cette dernière semaine, c'est un produit qui me plaît beaucoup.
Et les pay-per-view, t'en as pensé quoi des pay-per-view? Revolution, All In, All Out
Alors les premiers pay-per-view, le premier c'était quoi? C'était All In. Bah, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en plus il y avait un match pour le titre NWA, et j'adore la NWA. D'ailleurs, je n'ai pas dit, oui, mais je regarde la NWA Power aussi. Donc,
ouais,
je fais des critiques
Power
sur ma chaîne en plus. Donc voilà. Mais oui, Cody contre Nick Aldis pour le titre NWA, pour moi c'était vraiment incroyable. Voilà, je suis un grand fan de la NWA, donc ça me fait vraiment plaisir. Et sinon, tout le pay-per-view All In, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, je t'avoue que je me rappelle pas non plus de toutes les cartes qu'il y avait eu pendant les pay-per-view. Mais voilà, le Revolution, je l'ai trouvé assez sympathique, même si on avait eu deux weekly juste avant qui étaient très très bons. Donc forcément, passer après deux très bons shows hebdomadaires, ça fait toujours un petit peu bizarre. Mais sinon, c'est très bien géré. Le fait qu'ils en mettent un tous les trois mois, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour pouvoir construire des vraies rivalités et vraiment un vrai programme autour des pay-per-view. Et ça, c'est vraiment un plus-value de leur part.
Ouais. Et après, si on prend un peu division, tu penses de la division tag team? Qu'est-ce que tu penses de la division féminine? Qu'est-ce que tu penses du main event?
Alors, la division féminine, je vais directement lâcher le poids mort parce que c'est vraiment horrible. Franchement, la division féminine, c'est, de toute façon, tout le monde le sait, hein, c'est le point faible de la EW. Après, c'est comme je l'ai dit un petit peu.
C'est plus un secret, ouais.
Ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est comme je l'ai dit un petit peu plus avant. C'est le problème que j'ai surtout avec Cody d'un point de vue de personnel où voilà, il nous fait des promesses, des choses comme ça qui sont pas respectées. Hein. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes qui est là que pour faire de la promotion pour sa compagnie, parce qu'en soi, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, le fait d'ailleurs que le titre féminin soit aussi immonde, je pense que ça joue dessus. Là, il commence à se relever depuis 3-4 semaines pour créer une vraie division féminine avec quelque chose derrière, donc depuis la prise de titre de Nyla Rose. Mais sinon, jusque-là, c'était mauvais. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Okay. Je suis un grand fan de Yuka Sakazaki. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de la voir du côté de la WWE, même si elle a fait 2 ou 3 matchs, pas plus. Mais sinon, d'un point de vue aussi tag team, la division tag team, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu au début. C'était d'ailleurs pour moi le point fort de la AEW. Malheureusement, je pense qu'ils se sont cognés au fait qu'ils fassent surtout faire tourner une entreprise plutôt que mettre des garants de en avant. Donc du coup, on se retrouve avec Kenny Omega et Eggman Page qui sont champions par équipe. Donc j'ai rien du tout contre ces deux catcheurs, je les apprécie beaucoup, mais c'est vrai que quand on voit le nombre de bonnes équipes qui sont réellement des équipes derrière, ça fait quand même un petit peu mal. Donc voilà, j'ai aussi appris à connaître des bons catcheurs grâce à eux. Donc voilà, Jungle Boy et Luchasaurus, c'est vraiment une équipe que j'adore, vraiment pour moi ils devraient passer plus que ça.
Luchasaurus.
Luchasaurus,
c'est mon gimmick.
Et en plus là je te le dis à toi, mais la personne qui est derrière Luchasaurus,
oui,
c'est un catcheur que je suis depuis la FCW. Voilà.
Ah ouais.
Donc, c'était il y a très longtemps et malheureusement il a eu une grave blessure au dos à l'époque de la FCW, donc il a jamais catché à la télévision, il me semble, ou peut-être une fois, mais alors vraiment une fois vite fait quoi. Et en fait depuis ce temps-là, à l'époque de la FCW, j'ai adoré ce mec en fait. Il avait un physique incroyable à l'époque, il était pas aussi musclé, mais il avait un physique incroyable, il était super grand. Il avait une attitude et tout, et du coup, je suis tombé vraiment en admiration devant ce mec-là, et donc du coup, j'ai suivi un petit peu toute son évolution, et du coup, quand j'ai appris qu'il était à la Lucha Underground, alors là, je te raconte pas mon état.
Ouais, c'est là que je l'ai découvert, moi.
Ouais, il était incroyable, la Lucha Underground, à son arrivée, c'était phénoménal.
Vibora.
Ouais. Et voilà, du coup, c'est vraiment une équipe que j'apprécie beaucoup, et Luchasaurus, c'est vraiment quelqu'un qui mérite.
Qui est hyper over, en plus.
Bah, il est hyper over, mais j'ai peur d'ailleurs qu'il laisse trop tarder ça et que ça commence à passer. Donc, faut peut-être qu'il commence un petit peu à mettre en avant, parce que là, il perd en fait la plupart de ses matchs, donc faut qu'il soit mis en avant un petit peu plus.
Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord.
Mais ouais.
Ok, donc alors, et bah du coup, c'est une bonne transition parce que nous, la fameuse Wednesday Night War, la baston
Ouais.
du mercredi, hashtag marque déposée par Ketchup. Du coup, avec NXT, qu'est-ce que tu penses de cette guerre là avec NXT? Qu'est-ce que tu penses de NXT par rapport à ça?
Bah, je trouve qu'NXT, clairement, la WWE, ils ont mis tout sur le programme pour essayer de contrer la AEW. Qu'on le veuille ou non, hein, je sais qu'il y a des gens qui vont me contredire, mais ça se voit clairement que NXT est fait pour être en face de AEW. Mais franchement, j'avais un petit peu peur à la base que NXT passe en live sur 2 heures, parce que moi j'étais vraiment un grand fan du programme en 1 heure avec des enregistrements à l'avance pour que ça tourne en fait dans le roster. Mais voilà, ils ont réussi à bien doser le truc, donc je suis très très fan du côté NXT. AEW, c'est frais. Malheureusement pour moi, comme je l'ai dit, hein, je suis habitué aux produits WWE, donc la production WWE, ils font toujours la différence sur ce qui est ça, parce que voilà, la W sont assez jeunes, donc forcément ils font des erreurs de production qui, pour moi, me paraissent assez horribles à suivre. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'accordent pas d'importance, mais pour moi ça me fait un petit peu mal. Mais sinon, pour moi, je suis très très content de cette guerre entre les deux promotions, entre les deux shows, parce que justement, bah, les deux essaient de se dépasser et foutre un super programme. C'est d'ailleurs dommage que les deux n'arrivent pas à dépasser le million de téléspectateurs aux États-Unis, parce que
Non,
clairement, c'est les meilleurs shows actuellement hebdomadaires nord-américains.
pour toi, qui gagne la guerre à l'heure actuelle? Qui mène la baston?
Ah bah après, malheureusement, hein, j'ai déjà un petit peu dit mon avis, mais moi, je suis plus fan du produit NXT. Bon, je parle pas de ces dernières semaines coronesques.
Oui,
Mais
oui, oui.
je suis plus fan du produit NXT parce que j'ai l'impression que les 2 heures sont plus constantes. Voilà, j'ai l'impression que ça se déroule tranquillement comme un fleuve. Alors que AEW Dynamite, même si j'apprécie beaucoup le produit, voilà, des fois j'ai des coupures, des fois j'ai des moments où je suis plus du tout dans le programme. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en dehors de ça. Donc pour moi, je suis plus NXT. Voilà.
Ouais, alors moi, écoute, moi, c'est assez. Je suis partagé dans le sens. Enfin, je kiffe NXT. Je suis NXT depuis le début. Et
Ouais.
je kiffe. Et ouais, j'ai vu tous les takeovers. Voilà, je rate pas un weekly. J'adore NXT. Je peux pas dire autre chose que ça. D'ailleurs, j'ai fait des. Allez voir dans les archives de Catch-Up. Vous trouverez quelques reviews du Tonton Chris sur NXT. Mais si tu veux, la AEW, pour moi, c'est un produit neuf. Et pour
Ouais.
moi, qui suis vieux. Si tu veux, ça fait du bien à les pattes de temps en temps de changer de chaîne
Ouais.
et d'avoir un produit nouveau et fresh. Et il y a des choses, la AEW pour l'instant, en tant que produit neuf, il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a des choses qui me laissent totalement froid. Donc, comme tu l'as dit, la division féminine me laisse comme totalement glaciale. Le seul truc dont je suis satisfait, je l'ai déjà dit à l'antenne, mais je le répéterai parce jusqu'à ce qu'elle l'entende et qu'elle vienne me voir dans le studio à Catch Up. Mais je suis très content pour Shanna qu'elle bosse là-bas, qu'elle soit over comme elle est en tant que babyface
Ouais.
et que malheureusement elle n'est pas pushée pour l'instant. Elle sert à faire briller les autres.
En plus, c'est une super catcheuse, hein. Elle est
Mais
vraiment incroyable.
ouais, c'est une très bonne catcheuse. Ouais, elle a un très bon in-ring et je ne sais pas comment elle se débrouille en anglais. Ça, maintenant, ça sera la surprise à voir, quoi.
Ouais.
Mais si tu veux, moi en tout cas, je suis déjà vachement satisfait. D'ailleurs, on passe un big up à Artemis,
Oui, big up à elle pour son combat.
qui vient d'être embauchée par la WWE en tant qu'arbitre.
Bravo à elle.
Pour situer Artemis, elle est dans le business depuis des années. She deserves it. Il faudra le répéter encore et encore. Et en plus, je lui fais un big up si jamais elle m'entend, parce que elle écrivait dans les cahiers du catch. Le
Ah.
site Les Cahiers du Catch, où moi-même je sévissais entre 2014 et entre 2013 à peu près, je sais plus, et 2017 à peu près. Et donc voilà, donc big up à Artemis de la part de toute l'équipe de Catch Up.
Big
Et de
up
la
à elle, elle le mérite.
ouais, et de la taloche au passage. Et hop!
Hein.
En voiture, Simone. Donc ce petit aparté fait sur Artemis, on revient sur NXT.
Ouais.
Je te disais donc, moi, je te terminais mon avis en fait sur la AEW. Donc, j'aime beaucoup la Tag Team Division. Je l'ai déjà dit tout ça, hein, mais j'ai j'aime bien tout le principe des clans, de différents clans, etc. Moi, j'aime bien un peu ce bordel, tu vois.
Ouais, je comprends.
Et tu parlais de prod. Je trouve que la prod de la IW, elle est très très bonne. Les salles sont quasi pleines.
Après ça, si tu veux, on peut vraiment s'attarder sur ça, parce que moi, j'ai un avis un peu plus tranché que la plupart des gens avec qui j'ai parlé de ça.
Moi, le seul truc qui me pose problème à la IW, c'est la Real.
Ouais.
Voilà. Ouais. Tu vois, la Real in-ring. Y a des moments, je comprends pas trop, mais en ce moment, la WWE, c'est bizarre de toute manière, donc à filmer les catcheurs de dos pendant des moves aériens. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Mais pour la IW, vraiment, la Real dans son ensemble me pose souvent problème, quoi. Je sais pas pourquoi, je suis mal à l'aise. Des fois, c'est un peu bizarre. J'ai pas encore identifié le problème. Je n'hésiterai pas à vous en parler dès que j'aurai identifié la source de mes problèmes par rapport à la réal de la IW. Donc toi, pour toi, la taloche.
Ouais.
Je t'ai coupé dans ton élan sur la prod.
Ouais, sur la prod, moi, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Déjà, le fait que l'entrée de la AEW, je la trouve très sympathique, ça change beaucoup avec ces deux entrées là, mais ça me rappelle beaucoup la TNA entre 2006 2009, enfin quelque chose comme ça, avec ces deux couloirs là, j'aime beaucoup. Mais moi, c'est vraiment aussi sur la réalisation, la production qui que je trouve vraiment en deçà, et limite c'est un petit peu bizarre de voir ça alors que c'est censé être un gros show, le deuxième plus gros show aux États-Unis après la WWE. Mais voilà, il y a beaucoup de prises qui sont pas filmées à des moments. Les caméras, ils sont pas sur l'action qui devrait se passer sur le ring. Donc, on a des moments où on voit pas ce qui s'est passé. J'ai du mal toujours, mais ça, je pense que ça va être toujours le cas avec les feux d'artifice. Je trouve vraiment qu'ils sont qui sont pourris, en fait, à la W. Ça fait kermesse, en fait. J'arrive pas à avoir l'intérêt autour de ces feux d'artifice qui sont dans des entrées de catcheurs qui sont, pour moi, qui devraient pas avoir forcément de feux d'artifice. Mais il y a des problèmes de production. Ça s'est amélioré parce qu'il y a eu encore quelques shows, les premiers shows Dynamite. Il y avait vraiment des gros problèmes de production avec des trucs qui apparaissaient à l'écran. Des fois, on n'entendait plus les commentateurs. Enfin, il y avait vraiment trop de problèmes. Donc les maintenant, ça s'est amélioré, mais il faut vraiment qu'ils continuent à s'améliorer parce qu'il y a des moments où ils sont complètement à la ramasse, je trouve.
Les botches de Jim Ross, les
botches. C'est devenu habituel.
les botches des incrustations. Le système de ranking sur les victoires-défaites qui est, à mon avis, complètement con.
Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je peux même faire limite un sujet sur ça. Parce que le sujet à la EW de les victoires et les défaites, ça compte. Mais alors, bullshit, mon cul, quoi. C'est vraiment incroyable. Je trouve qu'ils sont d'une telle hypocrisie. C'est fou, quoi. Donc, du coup, on a toujours le tableau des victoires, des défaites, des catcheurs de la semaine, des trucs comme ça, mais ça sert absolument à rien, en fait. Hein.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, voilà. Ok.
Bon, écoute, on a fait la WWE, on a fait la OUD. Si, maintenant, on va passer un peu sur l'Indie.
Ouais.
Donc, tu regardes, on va faire un peu par région. Tu regardes du catch japonais un peu?
Parce que je regarde surtout la New Japan, du coup. La New Japan, et j'essaye un petit peu de regarder la All Japan Pro Wrestling, parce que c'est une promotion que j'ai un petit peu dans le cœur, même si c'est un petit peu plus difficile de suivre le catch japonais, je trouve.
Très bien,
mais ouais, moi j'adore les vieilles promotions. Hein. NWA et AJPW, c'est vraiment des promotions qui sont dans le cœur.
D'accord, ouais. Donc tu kiffes ce genre de truc. Et alors quand tu regardes la NJPW ou tu regardes les PP, ton rythme de suivi de ces fédérations-là.
Alors mon rythme de suivi de la New Japan, c'est quelque peu par-ci par-là, parce que moi je suis plus du côté américain, avec un show par semaine, un pay-per-view qui est fixe, des choses comme ça. Donc le système de tournée et de pay-per-view qui se déplace par-ci par-là, des choses comme ça, j'ai un petit peu plus de mal. Mais après, c'est parce que je regarde aussi beaucoup de trucs, donc forcément, je prends pas la peine de me renseigner comme il faut et de le noter quelque part qu'il y ait un show ce jour-là, qu'il faut que je le regarde. Mais sinon, la New Japan, je regarde toutes les années Wrestle Kingdom, de préférence en live si je peux. Et après, je regarde les gros pay-per-view comme Dominion, Sakura Genesis, je sais pas s'ils le font encore, mais Sakura Genesis, le choix anniversaire aussi toujours.
G1
Climax. Les G1 Climax, voilà, j'essaie de regarder. Malheureusement, les G1 Climax, c'est comme à chaque fois. Je commence les premières journées, je regarde vraiment autant que je peux, et puis au bout d'un moment, je décroche, donc du coup, je regarde que les matchs qui m'intéressent.
Et Wrestle, voilà. Wrestle Kingdom, du coup.
Ouais, Wrestle Kingdom toujours, et j'essaie toujours de le regarder en live, si je peux.
Ok. Catcher favori au
Japon. Putain, mon catcher favori au Japon, putain, tu m'en
pas forcément ton catcher favori, mais 2-3 catchers qui te viennent comme ça à l'esprit.
J'ai Sanada. Je suis un grand fan de lui parce que je l'ai connu à la TNA à l'époque où il était jobber.
Ouais, il était à la TNA. Il était jobber.
Ouais, c'est ça. Sinon, j'adore Hiromu Takahashi. Super content de le revoir du coup maintenant. Mais sinon, New Japan. En fait, New Japan, je les apprécie à peu près tous parce que c'est pas. Pour moi, j'ai du mal à comparer ça avec du catch américain parce que pour moi, c'est vraiment du catch sportif pour le coup. Moi, je regarde des sportifs en fait s'affronter plus que des catcheurs. Donc, je les apprécie à peu près tous parce que de toute façon, c'est à peu près comme les fans japonais. Hein, quand tant qu'ils s'y mettent à fond, tu peux que les applaudir. Donc, je les aime vraiment tous. Et Okada, même si j'ai un petit peu du mal avec son style à certains moments, c'est pour moi l'un des meilleurs catcheurs de la planète, comme je pense tout le monde le sait maintenant.
Ouais, je crois qu'il n'y a plus tellement... Dans le monde des suiveurs, il n'y a plus tellement de doutes là-dessus. Quoi.
Voilà, il y a Kota Ibushi aussi. Je l'ai oublié, mais Kota Ibushi, c'est même plus un catcheur ou un sportif pour moi, c'est un demi-dieu.
Et après, on va passer... On a fait le Japon. Bon, le Mexique, on en a parlé un peu au début. Donc, on reviendra sur la Lucha Underground après.
Ouais.
Donc, du coup, on va parler un peu du catch européen, du catch français en particulier.
Ouais.
Alors, c'est quoi ton avis, toi, sur le catch français là, du 21e siècle?
Alors, du coup, je peux faire ma promotion parce que j'ai sorti une vidéo samedi soir avec, du coup, ma copine Megan, qui, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas apparue sur la chaîne. Donc, voilà, où on a, du coup, regardé un show de catch français qui était disponible sur YouTube, un show assez récent. Et du coup, on en a parlé de notre avis. Donc, je vous invite, tous les gens qui écoutent, et même toi, tonton, à aller commenter cette vidéo en la regardant, bien sûr. Parce que du coup, vu qu'on connaît pas beaucoup le catch en France, du coup, on a un avis plutôt tranché, on va dire, sur le sujet, pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'est quelque chose que je connais pas trop. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, là, j'habite dans une région où on n'a rien. Donc je peux pas me déplacer, même si j'aimerais beaucoup me déplacer pour aller voir des gros shows. Forcément, j'ai pas le temps aussi avec le travail, des choses comme ça. Mais voilà, je suis très très content de la montée ces derniers temps, ces dernières années de grosses promotions comme l'APC, qui font des très gros shows. D'ailleurs, ils ont même mis le show avec la Progress sur leur chaîne YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. Sinon, après, je connais un petit peu la base des bases, hein, ICWA, West Catch aussi. Et la promotion que j'ai un petit peu dans le cœur ces derniers temps, même si malheureusement j'ai pas eu la chance de les voir en live et que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est Atlas Wrestling Club. J'aimerais vraiment beaucoup les voir et c'est vraiment pour moi un projet très très intéressant, peut-être même le projet le plus intéressant dans le catch en France actuellement.
D'accord. Des catcheurs français là comme ça qui te viennent à l'esprit là à l'heure actuelle que t'aimerais
que j'aime Rick Salem. J'adore Rick Salem. Il y a Lion Duranson aussi.
Ouais, Lion Duranson. Ouais.
Sinon, Tristan Archer, c'est toujours une valeur sûre.
Ah bah oui.
Là, du coup, dans la vidéo que j'ai faite avec ma copine, on a vu Mac DiVecchio, que je connaissais pas du tout, enfin, à part de nom, mais sinon, j'avais vraiment jamais vu catcher ou quoi que ce soit, donc vraiment un gros coup de cœur pour lui. Et sinon, il y a Jean-Michel aussi. Jean-Michel qui a la Rix, coucou à Cody. Jean-Michel,
salut, Cody
j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu de Jean-Michel, voilà, c'est un vrai coup de cœur.
Cody. Ah, ok. Donc voilà, c'est ton lien un peu avec le tout ça.
Ouais, voilà. Du coup, je connais pas, donc c'est un petit peu de ce que j'en déduis de peu de choses que je vois. Mais j'aimerais bien m'intéresser plus.
D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Et et concernant le catch old school, parce que tu sais que le dernier invité de You Talk Too Much, Nathan du Fatal 4-Way de Wrestling to the Mat, lui est un archi. On a parlé quasiment que qu'il était c'est un archi fan du catch old school. Donc toi, est-ce que tu en regardes? Qu'est-ce que tu regardes si tu en regardes?
Je regarde. Des fois, je tombe des matchs de la NBA, hein, J'ai dit, je suis fan de la NWA, donc voilà, des vieux matchs de la NWA, ça me fait toujours plaisir. Après, j'avoue que j'ai un petit peu moins d'accroche ou d'attache particulière avec le catch old school, même si j'aime bien regarder. J'aime beaucoup Ric Flair du fin des années 80, début des années 90. J'aime vraiment beaucoup ses prestations, donc à chaque fois, j'adore regarder ses matchs. Et sinon, malheureusement, bah voilà, le catch old school, c'est un petit peu un produit qui pour le coup aujourd'hui est dépassé. Donc c'est un petit peu plus difficile de vraiment voir un intérêt, même si je connais mes bases. Voilà, je connais mes bases WCW, NWA, WWF, tout ça. Voilà, je connais même l'ange blanc. Voilà, c'est pour dire à quel point le catch old school c'est quelque chose qui m'intéresse.
Ah là là là, l'ange blanc et le bourreau de Béthune.
Bah oui, bah c'est mon grand-père qui m'en parlait quand j'étais petit. Quand j'ai commencé à être fan de catch, il m'a dit qu'à l'époque lui regardait l'ange blanc. Donc ouais, après je me suis renseigné. Voilà.
L'ange blanc face au bureau de Béthune, ouais. Et ouais. Il y a eu deux mecs différents sous le masque de l'ange blanc.
Ah bah ça je savais pas, par exemple.
Tu vois. Ah, tu savais pas ? Ouais, bah si, il y a eu deux mecs différents. Il y a eu un premier gars, je crois, qui était un. Alors là, je les ai plus en tête là parce que là j'ai mon Alzheimer qui me reprend, mais il me semble bien qu'il y en avait un des deux qui était espagnol. Il me semble que c'était la deuxième, enfin qui était d'origine espagnole. Qui faisait partie de l'immigration espagnole des années 30.
Ouais, ok.
Et, le premier, j'ai un doute, donc comme je ne veux pas dire de bêtises, aidez-moi dans les commentaires, peuple de catch-up. donc voilà, donc écoute, je te parlerai à l'occasion de moi, quel est mon vécu par rapport à ça. Et,
ouais, ça m'intéresse beaucoup, ouais. Voilà.
On en parlera dans une autre occasion, mais là, c'est pas le jour. you talk too much, I never. C'est cool! Bon, alors on a fait quasiment le tour de tout. Maintenant, alors là, tu vas passer à l'épreuve du feu.
Ouh là là.
Tu vas passer par-dessus la troisième corde si ça se passe mal. C'est que maintenant, on va parler un peu Mexique, on va parler un peu Luchador, on va parler un peu le kiff de tonton Chris. Quoi.
Ouais, ok.
Donc, on va attaquer juste, t'en as déjà parlé un petit peu au début, donc juste ton rapport avec les, on va dire, avec la CMLL, avec la AAA.
Bah, mon avis, c'est que bon, bah, c'est des promotions qui sont très vieilles, donc forcément, ça m'intéresse.
1933, la CMLL.
1933. Et mais voilà, mais bah, malheureusement, le style de la lucha libre, c'est un style qui me parle beaucoup moins que le style nord-américain ou le style japonais, même le style anglais d'ailleurs. Mais voilà, disons que j'adore regarder le peu de fois où j'en regarde, c'est-à-dire pas très souvent, hein, ça doit être une fois par an pour Triple Mania, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, disons qu'en fait, c'est surtout des catcheurs mexicains qui sont arrivés soit au Japon, soit aux États-Unis, qui m'ont intéressé à leur passé, du coup, donc à leur programme. Donc voilà, je connais surtout par des catcheurs la CMLL et la AAA, donc par Andrade, à l'époque où il était à la Sombra, par Rouge aussi. Voilà, il y a eu une affaire Rouge et Dragon Lee il y a quelques mois maintenant. Et voilà, sinon c'est Mystico à l'époque en 2011 qui m'a vraiment me fait intéresser à la CMLL. Il était à CMLL, il me semble, à l'époque.
Ouais.
Donc voilà, ouais. Quand j'ai su qu'il avait été signé, je me suis dit putain, ce mec il a l'air d'être incroyable. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très très connu au Mexique, qui était vraiment une légende. Donc du coup, je me suis vraiment intéressé à sa carrière avant et du coup, je suis tombé sur ce qu'il faisait avant. Et du coup, j'ai croisé des têtes qu'on connaît un peu tous maintenant.
D'accord, ouais. Ouais, tu sais que, voilà, quoi, il y a quand même des mecs. Enfin, quand t'as des mecs comme Bandido, comme...
bah, j'adore Bandido, Junior, putain. J'ai oublié de le citer dans les catcheurs qui me font... Oh, putain, c'est incroyable. À chaque fois que je le vois, je suis en extase. Le mec, il est incroyable.
Ah, mais El Bandido, mais moi, je kiffe ce mec, mais ouf. C'est, voilà, El Bandido, c'est un bonheur, ce gars, quoi. Dans un ring, c'est un vrai bonheur, quoi.
Bah, pour moi, d'ailleurs, même, c'est dommage qu'il ait signé à la Ring of Honor parce qu'il aurait dû viser beaucoup plus haut...
Ouais, alors, bah du coup, bah tu fais une belle transition, mais il est parfait ce
taloche.
Ah. Allez vous abonner à la taloche là, parce qu'il est bien cet invité. Hein. Il fait les transitions sans même s'en rendre compte.
Ah,
donc,
ouais.
Du coup, maintenant on termine par la phase indie pure. Donc on va dire, moi j'appelle ça indie pure, voilà. C'est-à-dire la Pro Wrestling Guerrilla, Impact, Ring of Honor, tu vois, toutes les la Progress, la Evolve, tu vois, toutes ouais. La multitude de fédérations qu'il peut y avoir. La WXW, je pars même en Europe, tu vois. La Lucha ouais. Underground, bien évidemment, même si la Lucha Underground...
malheureusement.
Feu la Lucha Underground.
L'un des meilleurs programmes qui s'arrêtait aussi vite, c'est dommage.
Voilà, donc on finira par eux, on se fait plaisir hein, tous les deux, ok. On finira par la Lucha Underground.
Bah ok, d'accord.
Donc, donne-moi ton ressenti général sur l'indie là, qu'on vient de parler. Là.
Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans Fatal 4-Way, mais moi j'ai un avis pas négatif, mais un peu plus intransigeant avec l'indie. Ouais. Mais c'est pas par rapport à l'indie en lui-même, c'est surtout par rapport au fait que bah, c'est des catcheurs qui doivent vivre. Donc du coup, c'est pour moi, bah, c'est une phase, ça devrait être qu'une phase de transition en fait entre l'indépendant et les grosses promotions qui peuvent se permettre de signer des catcheurs bah, de manière exclusive, quoi, qui peuvent vivre de, juste de la promotion. Mais sinon, j'aime beaucoup la Pro Wrestling Guerrilla. C'est pour moi l'une des meilleures promotions. Même actuellement, ils font des shows vraiment incroyables. Ils ont réussi à se relever du fait que bah, voilà, tous les membres de l'élite, hein, Kenny Omega et les Young Bucks soient partis. Ils ont quand même réussi à derrière rebondir pour faire vraiment quelque chose de super cool. Donc j'aime vraiment la Pro Wrestling Guerrilla. Ils ont changé aussi d'arène. Et ça, j'avoue que au début, j'avais un petit peu du mal parce que j'étais attaché à leur ancienne arène, leur ancien gymnase. Là, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Mais j'étais attaché à leur ancienne arène, du coup ça m'a fait un petit peu bizarre quand ils ont changé de public et d'arène. Mais sinon, voilà, le Impact, comme je l'ai dit, je suis un très grand fan d'Impact depuis très très longtemps maintenant. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur Impact parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc je vais en parler très très longtemps. Mais sinon, la Ring of Honor, ces dernières années, malheureusement, tellement dégradée que j'avoue, je fais beaucoup de blagues sur mon Twitter, @staophilepw, n'hésitez pas à aller vous abonner. Mais voilà,
il est bon, je l'aime.
Mais ouais, la Ring of Honor, malheureusement, ils sont que l'ombre d'eux-mêmes en fait. Ils ont plus vraiment un programme intéressant. Le fait qu'ils mettent PCO en champion du monde, pour moi, ça a été vraiment un coup qui enterrait encore plus la promotion. Heureusement, maintenant, c'est plus le cas. C'est Rouge qui a récupéré la ceinture. Mais voilà, disons que les salles, ils plus vide du côté de la Ring of Honor, ils ont un petit peu du mal à retourner, même si je m'y intéresse beaucoup, parce que voilà, c'est aussi une promotion qui est certes moins vieille que de la plupart de celles que j'ai citées avant, mais qui est quand même une promotion assez majeure hein, du côté des États-Unis. Donc forcément, voilà, je suis un petit peu attaché, surtout voilà, à l'époque des Daniel Bryan, Samoa Joe, CM Punk, des choses comme ça voilà, qui m'avaient beaucoup plu et beaucoup attiré dans le programme. Il y a aussi un catcheur que j'apprécie beaucoup, même si ça, je pense que je suis le seul français qui apprécie ce catcheur, c'est Matt Taven. J'apprécie ouais. Vraiment voilà, ce qu'il fait, même si là il apparaît plus trop. Mais c'est vraiment un catcheur que j'apprécie vraiment, surtout son évolution, parce que je l'ai suivi depuis ses débuts. Donc forcément, quand tu vois l'évolution d'un catcheur, tu t'attaches beaucoup plus.
Ouais, c'est clair.
Mais
c'est
voilà.
pour ça qu'on aime autant d'ailleurs les catcheurs de NXT, par exemple.
Bah c'est ça. Moi j'adore. En fait, moi je suis fan de promotion de développement, en fait. Vraiment, c'est ce qui me plaisait. C'est pour ça d'ailleurs que je suivais beaucoup la FCW. D'ailleurs, là où j'ai connu le Luchasaurus maintenant. Mais j'adorais la FCW, j'adorais voir des mecs en fait qui étaient rien du tout et les voir progresser de semaine en semaine, les voir développer leur personnage, fournir un bon catch, tout ça. Donc moi j'adore vraiment les promotions de développement. Donc malheureusement maintenant il n'y en a plus trop. Voilà, c'est pour ça qu'NXT a un petit peu pris le pas. Mais NXT, disons qu'ils arrivent très bien à trouver cet entre-deux entre les nouveaux jeunes talents et les catcheurs un peu plus établis. Donc voilà. Après je m'attarde pas plus sur NXT parce qu'on parle pas d'NXT là. Mais voilà, sinon en promotion indépendante, la Progress, même si je me suis jamais trop attardé sur leurs produits, j'aime vraiment beaucoup leur identité. Ils ont l'air un petit peu d'être des rebelles voilà, qui fournissent du bon catch. Voilà. Et comme en plus j'ai vu le show APC contre Progress hier, donc je suis encore un petit peu dans le truc. Donc je suis content de cette promotion-là. La VXV, malheureusement, bah, je me suis pas intéressé à plus que ça. Voilà. Donc je pourrais pas trop juger le produit sur ça.
Ok, impeccable. Bon, et puis bah maintenant, notre petit bonheur à nous, notre petit bonheur, notre petite friandise de notre You Talk Too Much commun.
Ah, la cerise sur le gâteau.
Lucha Underground. Baby. Voilà. Alors là, que dire, que bah dire là, comment commencer déjà?
Bah là, il y a tout à dire et rien à dire en même temps, quoi. C'est un sujet incroyable, la Lucha Underground, quand même.
Quatre saisons
avec des hauts, des bas dans les saisons quand même, mais quand même quatre saisons qui sont excellentes.
Quatre pay-per-view.
Que oui, bah d'ailleurs c'est des pay-per-view incroyables d'ailleurs. Enfin, les fins de saison comme ça là, c'est ouh. Mais ouais, c'est incroyable franchement. Je sais même plus combien d'années maintenant ça fait qu'ils ont arrêté leur programme.
Après, je vais te dire ça. Vas-y, continue. Je vais te dire ça.
Ça fait depuis 2017, je crois qu'ils ont arrêté. Enfin,
doit être un truc comme ça, ouais.
Ça me rajeunit pas aussi, hein, ces bêtises.
Mais eh ben, moi, qu'est-ce que je dois dire? Espèce de jeune, bah.
Mais ouais, la Lucha Underground, je suis J'ai suivi depuis le début, en fait, parce qu'il me semble que c'est la AAA qui avait organisé ce programme-là, parce qu'il voulait un petit peu s'implanter aux États-Unis sans forcément mettre directement la AAA aux États-Unis. Et du coup, j'ai suivi ça depuis le début. Ils voulaient se baser à Los Angeles, c'est ce qu'ils ont fait, dans un très beau hangar qu'ils ont bien aménagé, avec une foule aussi incroyable. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Socatch by Al, un vlog où il est allé justement à des enregistrements de la Lucha Underground. Il me semble que c'était la saison 4 à l'époque. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à la Lucha Underground vraiment directement sur place, vous pouvez aller voir la vidéo de Socatch by Al, qui est une très bonne vidéo. Mais sinon, voilà, j'ai suivi vraiment le programme depuis le début. Je me suis vraiment intéressé déjà à des fins de business, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, aussi le business du catch, comment tout ça s'organise et tout à l'intérieur. Donc voilà, et puis après ils ont aussi signé, enfin c'était pas vraiment des signatures exclusives, mais c'était quand même des bonnes signatures, comme Ricochet qui était du coup en Prince Puma, Rey Mysterio quand même qui a fait un énorme ajout dans le programme, et puis après voilà, je suis tombé vraiment en extase sur des catcheurs que je connaissais pas du tout à l'époque, parce que c'était vraiment de l'indépendant qui m'intéressait pas tant que ça, parce qu'à l'époque j'étais pas non plus aussi impliqué que dans l'indépendant que maintenant. D'ailleurs je pense que c'est même la Lucha Underground qui m'a vraiment initié aux promotions indépendantes, pour de vrai, je pense que c'est ça, parce que voilà, on a eu des kill shots qui sont maintenant Isaiah Swerve Scott à NXT, enfin il y a eu El Hijo del Fantasma qui maintenant est assigné aussi à NXT, mais qu'on n'a toujours pas vu à la télé, mais voilà, il y a eu une flopée de talents incroyables qu'ils ont réussi à s'exprimer à la Lucha Underground.
Ricky, Ricochet,
bah oui, ah putain, Puma, Prince Puma contre Mysterio. Prince Puma contre Rey Mysterio, c'était incroyable.
Ah putain, mais ce match.
Voilà, même John Morrison.
Oui, John Morrison, ah ouais, Johnny Mundo.
Ouais, Johnny Mundo, voilà, putain, je croyais qu'il était sous son vrai nom, mais non, c'était Johnny Mundo. Tout son programme autour de sa familia, lui, là, c'était super cool. Voilà, il me semble qu'il y a eu même un match pour le titre pendant une fin de saison. Il me semble que c'était peut-être la première ou la deuxième saison, où c'était un match extrême entre Johnny Mundo et Prince Puma, quelque chose comme ça, je sais plus.
Ouais, c'était un
match qui s'est fini de manière extrême. Ils sont passés du haut de la rampe d'entrée directement sur des vitres et tout. Enfin, c'était incroyable.
Angelico qui faisait des spots. Mais
ah putain, mais oui, Angelico. Angelico qui sautait du haut de l'arène, là, c'était incroyable.
Ah ouais, je t'enverrai des gifs.
Ah ouais. Bah, Willie Mack aussi. Connu là-bas, il était vraiment super cool.
Le Willie Mack versus Cage, The Machine.
Enfin, mais d'ailleurs, même Jeff Cobb, maintenant, quand il était Mentosa, non, c'était quoi? Je sais plus comment il s'appelait.
Matenza.
Je l'ai connu là-bas, donc voilà. Disons que maintenant, c'est l'un de mes 4 joueurs préférés, donc c'est pour dire à quel point j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait à la Lucha Underground. Vraiment, c'est incroyable.
Alors, du coup, j'ai de l'info. Je suis chaud sur l'info.
Ah, vas-y.
Et, j'ai retrouvé tout ce qu'il fallait grâce aux archives des cahiers du catch. Et donc, j'écrivais, moi, sur le forum de la Lucha Underground sur les cahiers du catch, et je faisais des reviews par écrit, là, pour le coup, pas à la mode catch-up.
OK.
Et, de tous les shows, de tous les épisodes et de tous les trucs. Et donc, j'ai le dernier épisode, il date du approximativement du 12 novembre 2018.
Ah, OK. Donc, voilà. D'accord.
Et à l'époque, sous vos oreilles ébahies, j'écrivais Ultima Lucha, ça parle de Ultima Lucha 4, hein, vu que c'est la fin, quoi.
Ouais.
Voilà, Lucha Underground, saison 4, c'est fini. Ultima Lucha 4 s'est achevé dans un chaos indescriptible. Je vous mets en spoiler, blablabla. Accrochez vos ceintures, les Believers. Le main event opposait donc Mod Martinez au génialissime Pentagon Junior, qui, après un combat particulièrement sanglant, reprend son titre. Mais à la Lucha Underground, il se passe toujours quelque chose. Vampiro monte sur le ring, remet la magnifique ceinture au luchador et agresse celui-ci. Et après un petit fight, un nouveau personnage vient prêter main forte à Vampiro, que celui-ci présente comme son master. Du coup, Pentagone se fait sévèrement tabasser. Et qui donc se pointe? Je vous le donne en mille. C'est Jack Strong himself qui vient faire son cash-in.
Ah oui, putain.
Qui vient faire son cash-in pour remporter. Ce cash-in rapide et victorieux avec son ankle lock. Strong devient champion Lucha Underground et aura touché les deux ceintures Lucha Underground dès sa première saison. Le bonheur, c'est qu'au vu des segments de la fin, une saison 5 semble bien sur les rails. J'étais bien optimiste à l'époque.
Ah oui.
et un nouveau petit gars, ma foi, fort sympathique, est venu donner quelques nouvelles pour lancer la saison 5. Il ne s'agit ni plus ni moins de Bad News Barrett.
Oh oui, putain, oui. Oh là 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 là. Franchement, c'est des super bons souvenirs, putain, c'est ouf.
I'm afraid I've got some bad news. Lucha Underground is over.
Oh là là là. Oui. Bah d'ailleurs, c'est là aussi où j'ai rencontré Pentagon Junior avec son personnage de Pentagon Dark là. Il était incroyable. Franchement, il était incroyable.
C'était démentiel. Moi, j'ai pas raté un épisode, j'ai pas raté un pay-per-view. J'attendais chaque saison avec impatience. Et c'était, en plus, c'était un format, si tu veux, de temps qui me permettait de regarder ça sur ma pause déjeuner.
Ouais.
Et okay. Ça, c'était génial. Voilà, je m'enfermais pendant 45 minutes, je me matais peinard. La Lucha Underground, et après j'allais sur les cahiers du catch et j'allais faire ma petite review du soir. Quoi. Il y a 25 pages de Lucha Underground sur le forum Lucha Underground des cahiers du patch. Il y a que moi qui écrivais, il n'y avait que moi qui regardais.
Bah, c'est, franchement, c'est dommage qu'il n'y ait que toi qui regardes, parce que j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent à aller voir et aller d'ailleurs lire aussi ce que tu as fait, parce que vraiment la Lucha Underground, c'est vraiment un produit qui est tellement sous-estimé qu'il aurait dû vraiment décoller tellement plus. C'est vraiment dommage que ça n'ait jamais.
Plein de personnages, le temple, Dario Cueto, le public.
Ben ouais. Surtout qu'en plus, au moment où c'est sorti, on rappelle un petit peu le contexte, mais il n'y avait pas d'AEW, la Ring of Honor, ça stagnait depuis un moment, la New Japan, ça décollait un petit peu plus du côté mainstream. Mais voilà, l'impact, ils étaient de plus en plus bas dans les audiences, des choses comme ça. Mais d'un seul coup, ils sont arrivés avec un programme tellement frais, même maintenant, pour de vrai, c'est un programme qui est tellement différent du reste du catch, que quand tu tombes sur ça, en fait, c'est le mélange parfait entre une série télé un petit peu mexicaine, donc voilà, avec certains trucs qu'on dirait un petit peu kitsch, mais qui sont faits exprès, avec du très très bon catch, quoi.
Ouais.
Voilà, il y a des personnages, il y a des histoires, il y a une mise en scène, tout était incroyable dans cette
promotion. Des catcheurs impliqués, des voltigeurs, des powerhouse.
Mais c'est ça, et puis des mecs qui peuvent s'exprimer tellement sur un ring.
Des matchs féminins, des matchs intergender,
ouais.
Des légendes du catch mexicain qui faisaient des petites apparitions de temps à autre.
Bah, d'ailleurs, il y a aussi Mil Muertes, que du coup, je me suis jamais intéressé plus que ça à lui. Mais pour le coup, Mil Muertes, qui était le gros heel de la première saison, j'étais vraiment impressionné par ce mec. Là. Il avait un gabarit, un catch, il était destructeur, hein, franchement.
C'était le Lesnar de la Lucha Underground.
Ah, c'est ça, c'est totalement ça. Hein. Franchement, première saison, j'ai vu ce putain, mais c'est qui ce mec? Il est incroyable.
Ah, mais il y en avait un paquet, hein, des powerhouse. Hein. Il y avait
C'était un mélange parfait. Hein. C'était un mélange parfait de voltigeurs, de mecs puissants, de techniciens, de bagarreurs, de comédie. Tout était. C'était un mélange, mais incroyable, vraiment.
Il y avait des transgenres, des travestis, des nains. Il y avait toute la mystique des masques mexicaines qui était respectée, avec la mystique des gimmicks qui était respectée.
Ouais, c'est fou.
Moi, en tant que fan de catch mexicain, de lucha libre. Moi, j'adorais ça, quoi. Tu vois, je baignais dans mon jus, quoi. C'était voilà, quoi. J'étais vraiment dans mon truc, quoi. Tu prends les powerhouse. On a parlé de Matenza, de Mil Muertes, mais t'avais des mecs comme Mac, t'avais des mecs comme Kay.
Ouais.
T'avais une bande de luchadors là, mais qui était phénoménaux, là. Prince Puma.
Ah ben oui. Bah, Prince Puma, c'est ce qui a vraiment fait décoller encore plus la carrière de Ricochet, hein, à l'époque. Vraiment,
Tu
te retrouves dans un programme aussi mis en avant, avec un personnage aussi cool où tu peux t'exprimer et tout. Bon, bah certes, la plupart des gens, on savait que c'était Ricochet derrière le masque, mais à aucun moment, moi, je me suis dit, c'est Ricochet derrière le masque. Je me suis dit, c'est Prince Puma, le mec, c'est tout.
Ah, mais ouais. Mais moi, quand je parle de la Lucha Underground, je parle de Prince Puma et pas de Ricky la Belle Vie.
Ouais, bah voilà. De toute façon, Ricochet, maintenant, je vais pas en parler.
Ouais. Non, ça ferait trop plaisir à mon collègue Giscal qu'on en parle. Carbon on a une émission Giscal et moi un jour. On fera une émission spéciale Giscal et moi, spéciale Ricochet. Ça va lui faire trop plaisir de le démonter en direct. Ouais, donc voilà, là on s'est fait plaisir. Voilà, là où tu es Underground, les amis, si vous savez pas ce que c'est.
Franchement, allez voir. En plus, vous avez du contenu. Hein. Vous avez du contenu. Vous avez 4 saisons. Franchement, faites-vous plaisir.
Ah ouais, ouais.
En plus, dans cette période de confinement, voilà, au lieu de regarder des Raw ou des SmackDown, personne où c'est un petit peu le malaise, allez regarder des vrais shows avec un vrai public investi, quoi. Vraiment.
Ouais, et puis avec des matchs, avec des stipulations sympas pour beaucoup et avec plein de trucs. Il y avait moi le Aztec Warfare par exemple, leur version du Rumble que je trouvais génial. Chaque année et chaque saison, vous avez un Rumble en saison. Ils ont instauré le cash-in que dans la 4e saison.
Ouais, du coup, avant, la dernière.
Il était plus ou moins sous une certaine forme quand même parce qu'il était c'était avec la.
C'était la ceinture.
La ceinture aux 7 médaillons. Et donc du coup, vraiment, c'était une promotion fantastique. 4 ans, c'est passé trop vite. Et vraiment, moi, j'ai été très très triste quand ça s'est fini.
Ah ben moi aussi, franchement, c'est dommage.
Bah voilà, et bah écoute, on a fait le tour de tout ce qui concerne les promotions.
Ouais.
Et alors j'ai quand même une question pour toi maintenant, c'est comment t'es devenu un suiveur de catch ?
Comment je suis devenu un suiveur de catch ? Ouh là là, alors.
T'as 25 ans, on le rappelle quoi ?
Ouais, j'ai 25 ans.
Comment t'es devenu un suiveur de catch ? Et accro, parce que t'as une chaîne YouTube, voilà.
Ouais.
T'es accro quoi, on peut le dire.
Bah ça s'est fait en plusieurs périodes. Mais la première fois que j'ai regardé du catch, je suis pas du tout tombé fan de catch. Voilà, j'ai regardé la première fois, du coup je connaissais pas, c'était sur RTL9 très tard le soir, il me semble que j'étais en vacances avec des cousins, peut-être des choses comme ça. Et j'étais tombé sur un Raw où en fait c'était à l'époque de l'évolution encore, il me semble que c'était la fin de l'évolution à peu près, où c'était Triple H qui affrontait je ne sais plus qui, avec Ric Flair qui était encore son manager à l'époque. Et en fait, tout simplement, Triple H et Ric Flair, il me semble qu'ils ont gagné le match par une tricherie ou quelque chose comme ça, comme à l'époque, quoi. Et juste après, bah, y a tout le roster qui les ont entourés autour du ring et par le public pour pas qu'ils s'échappent. Et d'ailleurs, je sais pas du tout comment ça se finit, mais je suis tombé sur ça à l'époque. Et je me rappelle surtout à ce moment-là de Hurricane, voilà, The Hurricane qui sortait du public d'un seul coup avec son personnage de super-héros. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre ce truc. Et voilà, je suis pas du tout tombé fan de catch à ce moment-là, parce que déjà, bah voilà, tu tombes sur un truc comme ça où tu vois un vieux qui est Ric Flair, même déjà à l'époque, il était déjà vieux, et un mec qui avait un petit peu de brioche, qui sortait de ça avec sa moustache bizarre, qui était entouré par des personnages qui n'avaient aucun sens en fait. Donc forcément, je suis pas du tout tombé fan de catch à ce moment-là. Je me suis dit bon bah voilà, c'est fun, c'est un truc que je regarde le soir avant de me coucher vite fait. Mais voilà, et puis la période où je suis vraiment tombé fan de catch, ça s'est fait progressivement. Et le moment où je sais que je suis vraiment tombé fan de catch, c'est Jeff Hardy contre Randy Orton, la rivalité de Jeff Hardy contre Randy Orton. Mais ça a commencé vraiment avec le retour de Chris Jericho que je connaissais pas vraiment à cette époque-là. Mais voilà, c'était le retour de Chris Jericho en 2007, fin 2007. Où il revient avec en mettant un coup de la corde à linge au mec qui tient la flamme olympique là, quand Randy Orton était champion. Et du coup, il fait son retour sous une ovation du public incroyable. Du coup, je connaissais pas le mec, donc j'étais un petit peu surpris. Et puis après, ce qui m'a fait vraiment accrocher et rester, c'est surtout la rivalité Jeff Hardy contre Randy Orton que j'ai vraiment trouvé cool. Et surtout le moment où je sais que je suis tombé fan de catch, c'est le Swanton Bomb de Jeff Hardy du haut de la rampe d'entrée, du haut de 15 mètres, il me semble, sur Randy Orton directement.
D'accord, ouais. Donc ça, c'est resitue-moi les années, là.
Bah là, on est début 2008, fin 2007, quelque chose comme ça.
D'accord.
Voilà, c'était juste avant que ça passe en HD, d'ailleurs. Il me semble que la première fois que j'ai regardé vraiment un show en HD, ça devait être juste le show avant que ça passe en HD.
Donc c'était il y a 12-13 ans, quoi.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Et à partir de là, après, t'as plus jamais lâché, quoi.
Bah, j'ai plus jamais lâché... On n'était pas vraiment dans la période fan de catch, mais ça commençait progressivement à passer partout en France. Ils sont passés sur NT1 très rapidement après. Et puis après, voilà, toutes les chaînes ont eu un petit peu leur promotion de catch. Donc après, je suis tombé sur un show d'impact sur TF6, commenté par Célian Varini et Magloire.
Oh là 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 là.
Et même si les images étaient dégueulasses et qu'à l'époque malheureusement la télé était pas aussi perfectionnée qu'on l'a maintenant, mais je suis tombé directement fan du produit d'Impact en fait, donc enfin de TNA à l'époque du coup, et du coup je me suis directement accroché, et il me semble d'ailleurs que comme quoi toute mon histoire de fan de catch tombe avec des légendes que je connaissais pas, mais c'était le show où Mick Foley était devenu le général manager ou l'exécutif de Impact du coup, qui représentait la TNA, et du coup c'était Kurt Angle qui était le champion ou quelque chose comme ça à l'époque, qui est venu confronter en mode ici c'est chez moi, qu'est-ce que tu fous là, et Mick Foley qui se fait tabasser, et après il dit que maintenant c'est son nouveau patron.
D'accord.
Voilà, j'avais vraiment aimé okay. Ce moment-là.
Ok, voilà, donc t'as suivi après, ouais, là c'est toute la période, après c'est...
Ouais, c'est ça, après j'ai jamais lâché, lâché le catch, quoi.
Tous les WrestleMania, les Royal Rumble...
C'est ça, tous, sans exception.
Après tu t'es plongé dans l'indie, dans les autres promos, et tout ça.
C'est ça, mais en fait l'indie est arrivé assez rapidement Bah dans ma carrière de fan de catch, parce que à l'époque, du coup, c'était bah moi je suis un enfant d'Internet, hein, voilà. Donc
Bah ouais, hein.
forcément, bah depuis que je suis né, je connais Internet. Quand je suis né, j'avais la première PlayStation, donc voilà, tout a été très rapide pour moi. Donc voilà, dès que je suis tombé fan de catch, bah je suis allé me renseigner. Donc c'est comme ça que je suis tombé sur des archives. À l'époque, c'était sur des vieux sites. Je sais même pas d'ailleurs, je pourrais même plus vous rappeler le site. Mais voilà, du coup, j'ai regardé mais des centaines d'heures. De catch depuis les années 80 jusqu'à la période où je suis tombé fan de catch.
Et
Donc voilà.
tu lisais des sites internet pour sortir de l'image en fait? Est-ce que tu allais sur des sites
Ouais, bah à l'époque il y avait moins de contenu vidéo forcément, donc je sais pas si YouTube existait vraiment ou alors c'était vraiment au début, donc pas grand-chose. Mais je lisais beaucoup et je suis tombé assez rapidement aussi sur le forum de jeuxvideo.com
Ouais.
sur le forum catch quoi. Et à l'époque, bah, bon, bah, j'avoue, voilà, quand t'es un tout petit fan de catch, un débutant, que t'y crois encore un petit peu, donc forcément, tu écris un petit peu du caca tout le temps. Là, en plus, il y a des gens sur le forum catch qui avaient peu de patience, et c'est assez compréhensible parce que maintenant, je suis devenu comme eux. Mais
Ouais,
voilà, mes
ça,
débuts ont
ça.
été assez difficiles en tant que fan de catch pour partager mon avis, surtout que, comme je l'ai dit, déjà dans le Fatal 4 Way, j'ai une légère dyslexie, donc forcément, à l'écrit, en plus, c'est pas facile pour moi. Donc voilà, mais j'ai jamais la passion du catch, même si ce coup de frein du forum catch de jeuxvideo.com m'a freiné quand même beaucoup dans mon partage avec les gens concernant ma passion. Ouais.
Ouais,
Mais voilà.
t'as voilà, à un moment dans ta dans suiveur de jeunes suiveurs de catch, t'as brisé le kayfabe
Voilà, mais
et voilà
disons que
quoi.
voilà, c'est toujours. Je pense que voilà, quand on parle aussi de fans de catch, on se dit ah, oui, bon bah eux ils y croient, ils sont un peu dans le truc comme ça, même on dit qu'ils sont un petit peu bêtes, mais je pense qu'une partie des gens qui regardent le catch, même si tu sais pas que c'est scénarisé, tu dis toujours qu'il y a quelque chose qui est pas de la logique en fait. Donc inconsciemment, je pense que tous les gens qui regardent du catch savent que c'est organisé, scénarisé,
Scripté.
même si on n'a pas encore brisé le kayfabe quoi.
Ouais.
Donc voilà, moi c'est arrivé assez vite. Je sais que maintenant, voilà, les gens qui m'entourent savent que je suis fan de catch. J'ai pas du tout honte d'en parler, au contraire. Hein. Voilà, même si j'ai toujours les mêmes discussions avec mes parents, qui, voilà, à chaque fois que je regarde du catch, ce qui est pas souvent le cas avec mes parents, vu que j'habite plus avec eux depuis un moment. Mais à chaque fois que je suis avec eux et qu'il y a du catch à la télé, mon père a toujours cette réaction en me disant, oh quoi, tu regardes encore du catch? C'est des gens en slip qui se bagarrent. Et ma mère, qui à chaque fois est choquée en disant, mais ils se font. Donc voilà, c'est les mêmes conversations depuis pratiquement 15 ans.
Ils se font quoi? J'ai pas compris.
Ils se font mal quand même, quoi. Même
Ah
voilà. Parce
oui.
qu'elle, elle regarde le truc et vu qu'elle a eu un petit peu du sport de bagarre quand elle était jeune, donc elle se dit quand même que quand elle voit le truc, elle dit bah ils se touchent vraiment, quoi. Donc ils doivent se faire quand même vachement mal. Et puis voilà, du coup, je leur explique vite fait. Mais voilà, au bout de 15 ans, j'arrête de leur expliquer et je rigole juste. Voilà.
Ah ouais, c'est vrai que c'est drôle, quoi. Moi, mes parents, ils abandonnaient, il y a des... À l'âge que j'ai, tu vois, quoi.
Ouais.
Ils cherchent même plus à comprendre.
Après,
C'est
c'est vrai que c'est une passion étrange, quoi. Il faut
Ah
pour
bah
avoir.
ouais, chacun son trip, hein, écoute, hein, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Donc si nous on est là ce soir, hein, c'est parce que nous,
Ouais.
c'est
Et moi, je
important.
compare souvent ça avec du théâtre. Voilà. Une pièce de
Ah
théâtre.
ouais, mais
Bah,
moi
le catch,
aussi.
c'est une pièce de théâtre, mais avec des gens qui se bagarrent, quoi. Voilà.
Ouais. C'est de la bagarre scriptée, et puis
Voilà.
voilà, quoi. Et puis après, chacun il trouve son compte et l'interprète à sa manière et comme il a envie de le faire.
Non,
Tant
il y a
qu'on nous
bien des.
laissera libre de
Mais
regarder du catch et d'en faire des reviews, et ben on sera comme ça.
y a bien des gens qui regardent les anges et voilà quoi.
Voilà,
Chacun.
exactement. Bon. Moi, j'aurais envie de leur tirer des coups de fusil à ces gens-là, et j'aurais envie de le...
Voilà.
ou alors envie de leur dire, bah venez plutôt regarder du catch.
Voilà,
Vous
bah il y a
êtes
bien des
libre.
gens qui sortent en cette période de coronavirus, des gens qui sortent et qui se font la bisée.
Voilà. Et vous y verrez des beaux mecs, vous y verrez des femmes, vous y verrez tout. Enfin,
Exactement.
qu'est-ce que tu veux? Ah, ça, c'est un débat tellement long. Ça, c'est pareil. Ça mériterait qu'on consacre une émission complète à ça, quoi.
Ah oui, carrément.
Ça, tu vois, c'est un truc, en fait, on ne peut pas en parler en 5 minutes. C'est un sujet impossible à gérer en 5 minutes. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose de particulier, ça. Bon, ma dernière question concernant le catch, c'est est-ce que tu assistes à du live? Est-ce que tu as déjà assisté à des shows live?
Bah du coup, comme je t'ai dit, j'habite dans la région lyonnaise, donc pas de catch à côté de chez nous. Voilà, s'il faut que je me déplace, ce serait genre en Lorraine. comme ça. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas trop le temps ni les moyens d'y aller régulièrement. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup, beaucoup vraiment voir l'Atlas Wrestling Club, qui est pour moi l'une des promotions les plus intéressantes à suivre actuellement en France, du coup.
T'as jamais assisté à un house show à Paris ?
Si, j'ai assisté mais à la WWE, mais pas un show catch promotion française, quoi.
Ah oui, catch français, ouais.
Mais voilà, sinon, je suis allé regarder la WWE, il me semble, il y a 2 ans maintenant, quand ils étaient à Bercy, qui n'est plus Bercy maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle.
En 2018 ?
En 2018, ouais, c'est ça. C'est
putain,
ça.
J'étais dans la salle, Mataloche !
Bah voilà, bah moi j'y étais aussi avec ma copine qui m'avait offert les places, donc du coup on a fait le voyage jusqu'à Paris, c'était vraiment une super super expérience. D'ailleurs j'ai croisé à ce moment-là un Archer en sortant de la salle et tout, qui était en costard cravate, beau gosse. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne expérience.
Ouais.
J'ai aussi vu la TNA en France. La seule fois où ils sont venus en France, ils ont fait, il me semble, 2 ou 3 dates. Et du coup, j'étais au show de Lyon, parce que pour une fois, on avait un show à Lyon. Donc, j'étais allé à la Halle Tony Garnier. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé dans le Fatal 4-Way, mais voilà, j'étais encore assez jeune fan de catch. C'était en 2011. Jeff Hardy venait de faire son heel turn, qui était pour moi incroyable, du côté de la TNA. Donc, voilà, on avait une carte qui était super cool. Et il y a des anecdotes à foison sur ce house show qui était aussi l'une de mes meilleures expériences de fan de catch, vu que la salle n'était pas... enfin, il y avait beaucoup de gens, mais elle n'était pas pleine. Donc, du coup, je pouvais aller au premier rang pour un petit peu regarder ça de plus près. Et vu que c'était la première fois que je voyais des catcheurs américains réellement de près, ça m'a vraiment beaucoup impressionné à l'époque. Ouais.
Ok. Bon, bah écoute, ma bonne taloche. Tu m'excuses, hein, je suis familier, hein, mais c'est le privilège de l'âge. moi, je me dis quand même, quand je t'écoute, qu'il serait bon que tu viennes faire une ou deux reviews de la baston du mercredi sur Catch-Up de temps à autre, si ça te dit.
Bah écoute, moi, c'est avec un grand plaisir. Comme je te l'ai dit en privé, là, hein, voilà, on brise le kayfabe, on parle de privé. Mais moi, tant que j'ai le temps et tant que je suis dispo, c'est avec grand plaisir que je parle de catch avec vous sur Catch-Up. Hein. C'est vraiment okay, un honneur.
Au moins ça. Au moins. Écoute, tu seras notre invité sur la baston du mercredi avec plaisir, je pense. J'en parlerai avec la team. Enfin, la team va t'écouter dans cette émission. Donc, de toute façon, elle connaîtra ton avis de ta vive voix. Mais dès qu'on a un agenda qui se croise comme il faut, comme ce soir, si jamais on enregistre une baston du mercredi, on t'informe.
Bah écoute, avec plaisir.
Ouais, super. Bon, bah écoute, ouais, je suis perdu dans mes fiches, ça y est, c'est Alzheimer. Alors, la tradition a du bon. La tradition, c'est la tradition. Et j'ai raté le coche avec Cody, parce que j'étais aux fraises ce soir-là. Par contre, j'ai pas raté le coche avec Nathan. Et donc, la tradition à Catch-Up, tu vois, la procédure imposée par El Patron, IRM, c'est le top, le flop et la note. Alors voilà, tu vas me donner ton flop de la semaine catch qui vient de s'écouler.
D'accord.
Tu vas me donner ton top de la semaine catch qui vient de s'écouler. Et la note, eh ben, tu vas me donner ta note de l'émission qu'on vient de faire ensemble, tous les deux, en tag team partner.
D'accord, ok. Bah alors, mon flop de la semaine, il va se passer. C'est la révélation. Petit tease avec un mec qui filmait les gens.
Attends, la taloche, il y a eu une petite coupure. Tu peux répéter, s'il te plaît ?
Oui, du coup, mon flop de la semaine, c'est du côté d'Impact.
D'accord.
Avec la révélation de la personne qui se cache derrière le Reality is Lost, ICU. Voilà, c'était un mec qui se cachait dans les vestiaires, qui filmait les gens à leur insu, tout ça. Et en fait, on a eu la révélation cette semaine que c'était Sami Callihan. Donc énormément déçu parce que voilà, j'adore ce catcheur, mais disons qu'on a des semaines. Voilà, Solomon Crowe à NXT, qui d'ailleurs revient avec le même personnage que Solomon Crowe, donc le mec voilà qui est un petit peu connecté, qui réussit à hacker les trucs. Donc voilà, je suis déçu de cette révélation, même si j'aime le catcheur et que je trouvais le personnage intéressant. Malheureusement, je trouve qu'il n'en a pas forcément besoin, et puis surtout ça tourne un petit peu en rond pour lui. Donc voilà, malheureusement, c'est mon gros point flop de la semaine, je pense.
Je digresse un petit peu, qu'est-ce que tu penses, puisque tu parles d'Impact, l'arrivée de Killer Cross à la WWE, t'en penses quoi ? Parce que lui, c'était un putain de master à Impact.
Bah, je suis très content pour lui, parce que à Impact, malheureusement, les derniers temps, déjà, il était pas bien, il en a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, tout ça, il était, il voulait un petit peu partir. Donc, content pour lui qu'il part du côté de NXT, et j'espère surtout le voir avec, du coup, sa femme, Scarlett Bordeaux, en manager, oui. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable.
Oui, parce que ce qui est intéressant chez Killer Cross, c'est sa femme.
Bah oui, j'adore le catcheur, mais il faut pas oublier l'essentiel.
En plus, elle fait des dédicaces à Raphaël Hier, un de nos chroniqueurs stars de catch-up, puisque c'est Scarlett Bordeaux.
Voilà, mais ils forment un duo super intéressant.
Voilà, c'est une bordelaise, donc Raphaël, t'as toutes tes chances, Raphaël Hier. Toutes tes chances avec Scarlett Bordeaux. Faut juste que tu t'occupes de Killer Cross d'abord, mon bon Raphaël. Et après, ça peut le faire. Voilà. Donc, ton top.
Mon top, ça va être plus un top général. C'est tout ce qui se passe autour du soutien pour le catch en France. Yeah. Donc, les initiatives qui sont mises en place par Sturi, Cody, des choses comme ça, qui donnent la parole à des catcheurs français et mettent en place la diffusion de shows en France, même les promotions d'ailleurs qui partagent sur YouTube gratuitement. Donc, ça déjà, moi, ça me permet du coup de voir des promotions françaises que je connais pas, ou en tout cas que j'ai jamais regardé, eu la chance de pouvoir voir. Donc ça, c'est super cool et pour moi, c'est mon gros top de la semaine. C'est vraiment le soutien au catch en France.
Yes, big up. Moi, je vois deux ou trois shows par an à peu près, français vraiment quoi. Et voilà, et ce soutien que tu soulignes, c'est super. C'est génial d'avoir un invité. Mais il est bon, hein, il est bon cette taloche. Vous en pensez quoi, la team catch-up là? Mais big up à tout le catch français et à toutes les initiatives qui sont faites pour leur sortir la tête en dehors de l'eau, quoi, parce que c'est des intermittents du spectacle. Hein.
Bah oui, ouais, eux, ils n'ont pas la chance d'avoir des.
Et là, leur temps de travail va être largement amputé pour cette année 2020. Et puis, on souhaite surtout qu'ils gardent tous la santé et qu'ils puissent nous proposer des bons shows de catch. Et puis, on en reparlera à l'occasion, mais moi, j'ai un énorme problème de créer un NXT France, quoi. Donc, de toute façon, ça va chier. 2021, ça va chier.
Ouais.
Tout le réseau catch français là, tout le game de YouTube, des podcasts, les catcheurs, les promotions, tout ça, il va falloir trouver un moyen de s'unir. Unissons-nous, bordel.
Voilà, moi je suis sur un très très gros projet. Je tease en fin de vidéo, mais je suis sur un énorme projet. Voilà, je dis pas plus parce que peut-être que ça se fera jamais. J'espère que ça se fera. Mais sur quelque chose qui pourrait faire en sorte que des choses comme ce qui se passe en ce moment. Réussissent à quand même faire en sorte que les catcheurs et catcheuses soient rémunérés régulièrement.
And that's the bottom line.
Eh oui.
Excellent. Bah écoute, voilà, on est à la fin. Là, ça y est, on y arrive. Là. On a déjà bien creusé dans le temps.
Ouais.
Bah écoute, tu vois, ici, t'es chez toi. Bienvenue chez nous.
Bah merci.
La taloche, c'est un bonheur. Donc du coup, allez écouter la taloche. Allez sur YouTube, actionnez la cloche, abonnez-vous. Vous le retrouvez sur Twitter, vous le retrouvez sur Instagram.
Ouais.
Ça, c'est la promo de notre ami La Taloche.
Merci après, beaucoup.
Vous connaissez la promo l'auto catch-up. Nous, on est partout. Nous sommes omniscients, nous sommes omniprésents dans la catchosphère. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter. On est sur les cahiers du catch. On est sur toutes les plateformes de podcast, quoi. Deezer, PodCloud, tous les machins bidules. Enfin, voilà, tous les trucs. On est sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Faut nous faire de la référence, les amis. Faut aller nous mettre des pouces. Faut actionner la cloche. Faut faire des vues. Faut qu'on soit plus référencé. C'est pas normal sur YouTube qu'on soit si peu référencé, les amis. Faites des commentaires. Et engueulez-nous quand vous n'êtes pas content. Pas content, pas content. N'hésitez pas. Nous, on est carrément d'accord à avoir des feuds avec notre peuple de catch-up. C'est fait pour ça, de toute façon. Je vais terminer en remerciant d'abord mon invité, La Taloche. Merci de ta présence ce soir.
Ben, merci à toi, tonton.
Ouais, c'était un plaisir. Le Luchasaurus face à La Taloche, c'était quand même une belle affiche. voilà, je pense que là on commence à taper fort à You Talk Too Much, quoi. Mais vous inquiétez pas, You Talk Too Much, c'est loin d'être terminé. Il y a encore pas mal d'invités prévus dans les temps prochains. Qu'est-ce que je dois faire? Ce soir, c'est un peu spécial. Voilà, on est en plein confinement. Donc je veux faire une dédicace à tous mes sauces de la team catch-up individuellement, quoi. Donc je vais faire une bise à l'admirable amiral, à mon matelot à moi, à l'inénarrable Giscal, quoi, parce que ça, voilà, le anti-ricochet. Amista Nocho Kyrias, hein, je te taquine, mon Kyrias. À Raphaël Hier, yeah, donc Raphaël, n'oublie pas, Scarlett Bordeaux. à l'ignoble ringside, Il est malade, mon ignoble ringside, et j'espère qu'il va bien se porter et que ça va bien aller pour lui. Il était présent dans la review de la baston du mercredi. Allez nous écouter. Et puis je termine avec le dernier, quoi, mais pas le moindre. The last but not the least. Je termine avec El Patron Yerem. Des bises à toi, à toute ta petite famille. Et puis en espérant que tu continues à gérer les vignettes. Yeah, parce que c'est le grand Manitou de la vignette, Yerem. Il faut que le peuple de Ketchup le sache. Voilà. Eh ben écoute, on se quitte là-dessus. Vous étiez sur You Talk Too Much. Hashtag Team Ketchup. Hashtag La Taloche. Vous avez vu, We Never Shut Up, mais quand même un moment si, un petit peu. On vous fait des bisous. Salut la taloche.
Salut.
Salut peuple de Ketchup. The following contest is getting for one fall. One fall. And it is for the Ketchup and Talosh Championship. Winners takes all. And that's the bottom line. Coston ton Chris Setso.